Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions.
Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui s'intéresse à la blockchain et à la décentralisation numérique. Je suis Grégory Raymond, journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on parlera pas beaucoup de blockchain et de crypto. Cette fois-ci, j'avais surtout envie de parler avec vous de l'Estonie. Il paraît qu'on serait en train d'y inventer la société numérique de demain. Alors forcément, avec un sujet pareil, ça ne pouvait qu'intéresser 21 millions. Dans ce petit pays d'1,3 million d'âmes, coincé entre la Russie et ses voisins baltes, on bénéficie de quasiment tous les services publics sur son smartphone. Il est même possible de voter dessus. Alors forcément, depuis la France, ça fait bizarre. D'autant qu'on peut même devenir résident électronique sans y vivre et qu'un projet de crypto-monnaie nationale a même été évoqué au plus haut niveau de l'État. Pour parler de tous ces sujets, je reçois Geoffroy Berson qui nous fait l'honneur de nous expliquer comment fonctionne cette société du futur. Il fait figure de témoin privilégié car il a vécu 2 ans à Tallinn, la capitale, entre 2016 et 2018, où il était chargé de mission sur des questions numériques auprès de l'ambassade de France. Il nous racontera ce qui se passe dans ce pays qui rêve d'exporter son modèle à l'étranger. Car l'enjeu est primordial pour l'Estonie. Derrière ces expérimentations administratives et technologiques, le gouvernement entend faire de sa cyberdémocratie un moyen de s'affirmer sur l'échiquier mondial. Bonjour Geoffroy Berson, bienvenue dans 21 millions.
Bonjour, merci.
Alors, je suis ravi de vous recevoir car vous êtes l'un des rares francophones à pouvoir témoigner d'une expérience complète dans les arcanes de l'administration estonienne. Donc, pendant 2 ans, vous avez vécu à Tallinn auprès de l'ambassade de France où vous occupiez un poste d'attaché numérique de l'Institut français d'Estonie et du service de coopération et d'action culturelle. Alors, derrière ce nom ronflant, en quoi consistait cette mission exactement ?
Donc, j'avais une mission de 2 ans pour créer le poste d'attaché numérique dont l'objectif était de rapprocher la France et l'Estonie sur des questions de société numérique et de ne pas présenter le numérique comme uniquement un domaine économique, mais comme un facteur de transformation de la société sur lequel on doit se poser des questions. Mmh. Et donc mon rôle était d'engager des dialogues, des coopérations entre 2 pays qui sont amenés à jouer un rôle important dans la construction d'une Europe numérique.
D'accord. Et j'ai eu l'occasion de me rendre à Tallinn en 2015. Alors effectivement, le pays semble en avance sur beaucoup de choses. Personnellement, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on pouvait payer par carte bancaire dans la totalité des commerces, même les plus minuscules et même pour moins d'1 euro. Moi, ça fait rêver pas mal de Français, hein, je crois.
Effectivement, ouais. Toute la vie quotidienne, de manière générale, est plus simple en Estonie qu'en France. Ça, c'est incontestable.
D'accord. Et à quoi on peut attribuer cette avance ?
Il y a plusieurs aspects à ça. Je pense que c'est globalement un pays qui valorise l'innovation, qui valorise l'agilité, qui se pense comme un État agile et qui n'a pas peur d'essayer, de tester, d'échouer parfois, avec une méthode qu'on peut rapprocher des startups notamment. Ils se vantent souvent comme étant un État avec un esprit startup. Non pas que toutes les administrations se comportent comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une prime à l'agilité.
D'accord. Et donc, vous l'aviez dit, hein, plus généralement, l'Estonie est souvent citée en exemple quand il s'agit d'évoquer le numérique. Alors, il est possible de quasiment tout faire en ligne et simplement, alors que chez nous, on est encore bien habitué à remplir de la paperasse, l'envoyer, éventuellement qu'on nous renvoie un formulaire qu'on aurait oublié. Bref, c'est un peu embêtant chez nous. Et en Estonie, tout ça est possible grâce à la fameuse carte d'identité numérique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, à quoi elle sert ?
Donc la carte d'identité numérique, c'est vraiment le cœur de l'État numérique estonien. C'est une carte physique, donc qui ressemble à une carte bancaire française avec la photo d'identité et puis une petite puce électronique qui a été lancée en 2002, qui est depuis obligatoire, donc presque tous les Estoniens ont, et qui permet, en se connectant sur son ordinateur avec un lecteur dédié et en tapant un code PIN, d'accéder à son espace personnel auprès de l'administration estonienne. Et qui donne accès à la quasi-totalité des services publics en ligne de manière assez simple, avec un portail unique, ce qui est extrêmement important pour avoir accès simplement à tous les services publics.
D'accord. Donc les services publics, c'est donc la carte d'identité classique, hein, le permis de conduire, ça peut être l'équivalent de la carte vitale locale. Mmh, et c'est marrant parce que ça sert aussi de carte de transport, hein, à Tallinn.
Alors, pas directement, dans le sens où vous aurez quand même toujours une carte physique de transport. Mais ce qui est intéressant à Tallinn, c'est que si vous êtes résident de Tallinn, vous disposez de la gratuité des transports en commun, à condition que votre carte de transport soit liée, était liée à votre carte d'identité pour prouver que vous résidez sur Tallinn. Et donc il y a un échange de données qui est fait.
Donc au final, on a l'impression qu'on peut quasiment tout faire avec cette carte. Mais quelles sont les limites d'usage? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cette carte au niveau de l'administration?
Du point de vue public, il n'y a que trois services publics qui ne sont pas disponibles uniquement en matière numérique. C'est le mariage, le divorce et la cession de biens immobiliers.
D'accord. C'est pour des raisons techniques ou...
Non, ça pourrait être évidemment fait de manière numérique comme pour tous les autres services publics. C'est uniquement pour des raisons politiques et culturelles. On considère que quand il y a un mariage notamment, il faut qu'il y ait au moins une rencontre physique et que ça ne peut pas être fait uniquement en tapant un code PIN sur Internet. Mais techniquement, tout pourrait être fait et peut-être qu'un jour, ça sera, ils reviendront dessus.
D'accord. Et pour la cession du bien immobilier, on peut peut-être imaginer une tokenisation plus tard et qu'on puisse échanger des titres de propriété en ligne juste depuis son ordinateur, quoi.
On peut tout à fait l'imaginer d'un point de vue technique. Je pense que s'ils ont demandé à ce qu'il y ait une présence physique, c'est parce qu'il y a peut-être des abus contre lesquels il faudrait lutter. Et donc là, il y aura des questions de sécurité, je pense, et de lutte contre la fraude qui seront importantes. Mais d'un point de vue technique, oui, ça pourrait être intéressant.
Et j'imagine que si on faisait ça en France, il y aurait peut-être vachement de défiance de la part des citoyens, parce qu'on se dirait, oh là là, l'État va avoir encore plus de données qu'il n'en a déjà et tout. En Estonie, j'ai l'impression que ça pose moins de problèmes parce que les Estoniens ont confiance dans leur État, notamment parce que l'Estonie existe depuis 1991. Ils sont restés sous l'occupation soviétique et avant nazie, donc pendant quasiment tout le XXe siècle. Donc cet État jeune est plutôt source de confiance. Hein.
Exactement. Il y a deux grands types de raisons pour lesquelles les Estoniens ont confiance dans leur administration. La première, celle qui peut vraiment nous intéresser directement, c'est l'efficacité technique et le fait qu'il y ait beaucoup de transparence dans leurs institutions. La plupart des briques numériques de leur infrastructure sont ouvertes, elles peuvent être auditées. Et pour la vie quotidienne d'un Estonien, c'est beaucoup plus efficace d'avoir accès à tous les services publics en ligne, en quelques clics, plutôt que pour un Français d'avoir des processus qui sont certes de plus en plus en ligne, mais toujours très compliqués et qui mélangent souvent la présence physique, l'envoi de courriers papier et des espaces numériques qui sont assez mal conçus, je trouve. Donc il y a cette question de l'efficacité. Et puis, il y a des questions un peu plus culturelles qui sont là différentes du contexte français, où effectivement, naturellement, il y a une confiance un peu plus grande des Estoniens dans leurs institutions, notamment ce que tu disais sur le fait que les institutions estoniennes sont très récentes. La moitié du XXe siècle, effectivement, ils étaient sous occupation étrangère, principalement soviétique. Et donc, le fait de retrouver des institutions qui soient estoniennes en 91 contribue à donner un capital sympathie en fait aux institutions que nous on n'aurait pas automatiquement. Il y a beaucoup plus de défiance de la part des Français, je pense, envers leur administration.
Alors pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'on puisse vérifier. Hein. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans ce dispositif estonien, c'est que chaque citoyen quand il se connecte à son compte, il peut vérifier qui a eu accès à ses données personnelles et à quel moment. Si un coup d'œil vous paraît injustifié, vous pouvez réclamer des comptes à l'administration. Donc la transparence et la garantie qu'on n'exploitera pas cette fantastique masse de données, j'imagine que c'est un peu la clé de voûte du système. Hein.
Exactement, c'est un peu la grande réussite d'un point de vue démocratique de leur modèle. Là où la plupart des délégations françaises qui vont visiter l'Estonie sont un peu étonnées de la facilité avec laquelle l'État va capter des données sur les citoyens. Ce que les Estoniens vont répondre, c'est que les citoyens français n'ont aucun moyen de savoir où sont stockées ces données, par qui et quelle utilisation en est faite. Et c'est vrai que quand je vais chez le médecin ou quand je donne des données parfois trois fois la même à une administration, je ne sais pas ce qu'elle devient, je ne sais pas qui la regarde et je ne sais pas si elle est vraiment en sécurité. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'eux, ils ont un droit de regard sur l'utilisation des données, c'est-à-dire que tout simplement, tout citoyen peut se connecter sur son espace personnel avec sa carte d'identité numérique, regarder qui a accès à ces données. Si ça paraît pas forcément légitime, par exemple, il y a eu des cas assez célèbres de policiers qui ont regardé des données personnelles de nouveaux compagnons ou de leurs ex, etc. Le citoyen a droit à demander des explications en 24 ou 48 heures, donc de manière assez rapide à son administration. Et si jamais c'est démontré que cette personne n'avait pas besoin d'accéder à ces données, il y a des sanctions qui sont assez rapides, assez sévères. Et donc ce droit de regard citoyen sur l'utilisation des données, c'est une notion qui est extrêmement importante et intéressante d'un point de vue démocratique. Il y a un auteur et entrepreneur américain et britannique qui s'appelle Andrew Keen, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « How to fix the future » et qui explique que pour lui, l'Estonie, c'est le modèle à suivre pour les démocraties libérales parce que grâce à ce droit de regard citoyen, cette transparence, ils ont inventé un nouveau contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. Il explique que oui, l'État a plus de facilité pour collecter des données sur les citoyens, mais en échange, le citoyen peut vérifier comment elles sont utilisées. Donc ça donne naissance à cette notion de accountability, donc de redevabilité de l'État envers ses citoyens, parce que les citoyens peuvent très simplement voir l'utilisation qui est faite et demander des comptes aux administrations, ce qui est en théorie possible dans tous les États de droit, dans toutes les démocraties, mais très difficile à faire quand on est face à une administration papier.
Ça me fait penser à une chose. Donc, dans 21 millions, on parle surtout de crypto-actifs, de crypto-monnaies, de blockchain, pardon. Et la blockchain, on en parle souvent comme la technologie qui va résoudre le problème de la confiance et tout. Et puis là, on s'aperçoit que pour résoudre ce problème de la confiance, l'administration estonienne, elle n'a pas besoin de blockchain. Hein. Une bonne base de données bien sécurisée à l'ancienne, ça marche très bien, quoi.
Alors, honnêtement, je ne sais pas à quel point la dimension technique, et notamment justement ce droit de regard citoyen sur l'utilisation des données, explique la confiance que les citoyens estoniens ont dans leur administration. Je ne sais pas si ça aurait suffi pour, imaginons dans le contexte français, répliquer la même technologie et considérer que parce qu'on a un droit de regard sur l'utilisation de nos données, automatiquement la même confiance serait créée. Honnêtement, je ne sais pas. Des fois, j'ai un peu l'impression que la confiance, il l'avait par défaut. À l'origine, et que tout ce qui va être ouverture de leur infrastructure et transparence qui est progressive, tout n'a pas été transparent dès le début, les codes sources sont ouverts au fur et à mesure, vient un peu en bonus.
Et donc la carte d'identité numérique permet donc de voter depuis chez soi, avec son ordinateur ou même avec son smartphone. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est assez sûr ? J'imagine que c'est extrêmement débattu là-bas.
Ça l'est pas tant que ça, pas assez en tout cas. Globalement, le vote électronique est très peu remis en cause. Il est même pas. Il y a aucun parti politique ou aucune association qui va frontalement remettre en cause le vote électronique, même en débattant des conditions de sécurité. Ce qu'ils vont expliquer, c'est que d'abord, la technologie est une des technologies les plus en pointe sur la sécurité numérique. Ils ont plusieurs entreprises qui sont en pointe sur le sujet, sur la cybersécurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont le processus a été pensé. Le vote électronique ne remplace pas forcément nécessairement le vote papier.
En fait, il existe toujours, le vote papier, c'est toujours
exactement,
possible.
Exactement, déjà, le vote papier est toujours possible et deux tiers à peu près des votants estoniens vont toujours à l'isoloir pour mettre un bulletin papier. Et surtout, le vote électronique, il est ouvert pendant une période de 1 à 2 semaines jusqu'à quelques jours avant les élections officielles, pendant lesquelles on peut réitérer notre vote autant de fois qu'on le veut. Donc un des grands arguments sur la question de la sécurité, notamment du vote électronique, c'est qu'il n'y a aucun moyen de prouver qu'il n'y a pas une personne à côté de vous qui vous force à voter pour tel ou tel candidat, ce qui est un argument excellent. Et historiquement, on a inventé l'isoloir pour justement être sûr que les citoyens n'ont pas trop de pression au moment de voter. Donc le processus de vote électronique est tel que s'il y a une personne qui a changé d'avis au cours de cette durée pendant laquelle le vote électronique était ouvert ou qui a subi des pressions, elle peut revoter et ce nouveau vote va annuler en fait le précédent vote.
Le jour J, le jour où les gens votent avec bulletin papier, là le vote électronique est fermé, hein, c'est ça ?
Exactement, le vote électronique ferme quelques jours avant la tenue de l'élection. Et si une personne qui a voté en ligne souhaite se rendre également à son bureau de vote, c'est le vote papier qui va être pris en compte et pas le vote électronique.
D'accord.
Donc, ce qui permet de répondre à la critique des pressions externes.
D'accord, donc s'il y avait des tentatives de piratage, donc ça se verrait avant. Et puis, si c'était vraiment avéré, l'État dirait « bon, on annule tout ce qui a été pris électroniquement et vous allez voter avec votre bulletin papier le jour J ».
Exactement,
c'est un
de leurs arguments en termes de sécurité, effectivement, qu'il y aura un collège d'experts qui va voir s'il y a eu des incidences sur le vote électronique. Et s'il y en a, ils vont décider d'annuler. Ce qui n'est jamais arrivé, d'annuler le vote électronique et de demander à tout le monde de se rendre aux urnes.
C'est intéressant parce que ouais, l'Estonie, c'est un des premiers pays qui a mis en place le vote électronique, alors que paradoxalement, c'est un des pays qui redoute le plus des attaques informatiques. Hein. Une grande partie de la population estonienne redoute des tentatives d'ingérence de la Russie sur son ancien satellite. Hein. Et en 2007, par exemple, l'État russe a attaqué les réseaux de son voisin pendant près de 2 semaines et ont rendu inaccessibles d'importants services administratifs et bancaires. Donc la peur de piratage doit vraiment être présente. Hein.
Tout à fait. C'est pour ça qu'ils s'imposent des standards de transparence déjà sur le processus, sur le déroulement du processus de vote et puis des exigences de standards de sécurité sur la technologie qui est utilisée. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a une différence d'approche sur la question de la vie privée et de la sécurité en ligne entre des pays comme l'Estonie et des pays comme la France. C'est que, pour eux, le principal sujet, ça va être l'ingérence, effectivement, les risques d'ingérence et d'attaque de pays étrangers, notamment la Russie. Là où les Français auront plutôt peur que l'agrégation de données de la part du secteur privé comme de la part du secteur public puisse mener à des risques pour la vie privée, etc. C'est pas tout à fait leur souci là-bas.
Est-ce que ça a eu des effets sur la participation en Estonie ?
A priori, non. De manière générale, l'Estonie, c'est un pays où on vote moins que dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc le taux d'abstention pour les législatives, ça sera 30, 35, 40%. Là où en France, pour les présidentielles, ça sera 20, 25%. C'est des chiffres qui sont assez élevés, qui sont en lien en fait avec les pays de l'ancien bloc communiste. Donc il n'y a pas forcément d'exception estonienne à ce niveau-là. Et puis quand on regarde sur l'évolution dans la dernière douzaine d'années, donc c'est-à-dire la période pendant laquelle c'était possible de voter en ligne, on n'a pas vraiment vu d'augmentation. Il y a une légère augmentation de plus 6 points de la participation sans que personne puisse l'attribuer à la facilité de voter en ligne.
D'accord, donc il ne faut pas imaginer que si les gens n'ont pas à sortir de chez eux, ça va tout changer dans notre démocratie.
Non, ce qu'on voit en fait en général, c'est plutôt ceux qui avaient déjà prévu de le faire, le font de manière électronique parce que c'est plus simple pour eux, ou ils sont en voyage, etc. Mais en général, ça ne permet pas de reconnecter des personnes qui étaient éloignées des institutions au jeu politique.
D'accord, et c'est donc juste de l'optimisation, quoi.
Exactement, c'est de l'optimisation.
Et maintenant, j'aimerais que vous nous parliez d'un autre statut très célèbre en Estonie, c'est le statut de e-résident dont raffolent les entreprises étrangères notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert ?
Le programme e-résident, c'est un programme qui est né il y a 4 ans et qui permet à des personnes qui sont pas citoyens estoniens et pas résidents estoniens de quand même bénéficier de l'infrastructure que les Estoniens ont développée depuis 15 ans. Donc concrètement, on reçoit notre propre carte qui est presque comme une carte d'identité, sauf qu'il n'y a pas de photo dessus, donc elle ne donne pas le droit de voyager dans l'espace Schengen, et elle ne donne pas le droit de voter, notamment en Estonie, d'avoir des droits de citoyen, mais qui donne droit à avoir accès à la plupart des services numériques auxquels ont accès les Estoniens. Donc l'usage type, souvent, ça va être des entrepreneurs, notamment des digital nomades, qui vont avoir un business en dehors de l'espace Schengen et de l'Union européenne, qui aimeraient avoir un pied dans le marché commun, et qui vont pouvoir, à distance, sans être en Estonie, incorporer un business estonien, avec tout ce que ça comporte comme facilité administrative. Toutes vos entreprises peuvent être gérées en fait en ligne très facilement. Et à partir de là, d'avoir accès au marché unique européen.
D'accord, donc tout ça pour 100 euros quoi.
Tout ça pour 100 euros.
Et donc c'est pas un peu un paradis fiscal qui cache son nom ? Qu'est-ce que cherche à faire l'Estonie derrière ?
Il y a beaucoup de questions qui ont été posées à ce sujet, qui peuvent être compréhensibles, mais l'Estonie, ce n'est pas un paradis fiscal. On y paye des impôts, il y a des accords de coopération avec la plupart des pays, notamment en Europe, sur l'imposition. Plutôt qu'un paradis fiscal, en fait, ça va être un paradis administratif, ce qu'on va dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de gérer son entreprise avec l'infrastructure estonienne qu'avec l'infrastructure d'autres pays, notamment la France, et encore plus, je pense, d'autres pays, notamment en voie de développement.
D'accord. Donc en fait, ce programme de e-résident, c'est comme une super publicité de l'administration estonienne, en fait.
Ils ont ce branding autour d'une nation numérique sans frontières avec leur projet e-résident, ce qui est extrêmement intéressant et qui permet d'attirer l'attention de beaucoup d'innovateurs dans le monde. Et puis, d'un point de vue plus pragmatique, c'est un moyen de capter une partie de la valeur qui est créée dans cette économie numérique qui est extrêmement mobile et autour de laquelle il y a beaucoup de concurrence entre les États pour attirer cette valeur, en fait. Les Estoniens sont assez pragmatiques. Ils voient bien que les entrepreneurs du numérique, même s'ils peuvent être attirés par les infrastructures numériques estoniennes, ils ne vont pas tous se mettre à aller vivre en Estonie pour une raison simple, c'est que le climat n'est pas très accueillant. En revanche, ils ont réussi un tour de force et un peu une nouveauté, c'est de capter cette valeur sur une nation numérique qui n'est pas physique, donc qui n'empêche pas les gens de quitter leur famille, de quitter leur business local, et qui leur permet en même temps de bénéficier quasiment des mêmes avantages qu'auraient les Estoniens et les résidents de Tallinn. Donc ça permet de jouer sur les deux tableaux. En fait, avec l'e-résidence, il y a un pari assez intelligent et en tout cas très intéressant de la part des Estoniens, qui est qu'à l'avenir, les États auront une nouvelle communauté à servir qui n'est pas uniquement leurs citoyens nationaux, qui n'est pas uniquement les résidents sur place, mais aussi les e-résidents, c'est-à-dire une communauté qui va se regrouper autour d'un État parce qu'ils se sentent liés par des valeurs, parce qu'ils ont envie d'investir littéralement dans ce pays et que les États chercheront à attirer, parce que ça sera source de création de valeur économique pour ces États-là, et puis peut-être un moyen aussi d'imaginer l'évolution de ces infrastructures, de ces institutions, de ces services publics, aussi au bénéfice en fait des citoyens. Et ce pari-là qu'ont fait les Estoniens, que les États vont servir aussi une communauté de résidents autour d'eux, commence à être validé, parce qu'on voit d'autres pays qui pensent à avoir leur propre programme d'e-résidence. Il y a l'Azerbaïdjan qui a annoncé qu'ils allaient être le deuxième État. Il y a Dubaï qui pense vouloir faire la même chose. Et ce que disent les Estoniens, c'est qu'ils accueillent en fait cette compétition, pas parce qu'ils pensent que ce sera des concurrents qui vont leur voler leur business, mais parce que ça poussera chaque État en fait à définir ce qu'ils ont à apporter aux entrepreneurs autour du monde, à définir ce que c'est que leur valeur ajoutée sur la scène de l'économie numérique. Et que, en fait, on en revient un peu à cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo, que chaque État devra se spécialiser sur un domaine en particulier et que ça sera bénéfique au sens global pour l'économie mondiale. Et c'est assez intéressant, je pense, à suivre dans les années à venir.
Ouais, complètement, complètement. Et l'Estonie a paru en pointe parce qu'en 2017, ils ont commencé à parler d'une crypto-monnaie étatique, donc Listcoin. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est un peu arrêté. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet?
Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a eu beaucoup de malentendus autour de ce projet. Donc en 2017, effectivement, il y a un article Medium qui a été posté par Caspar Corius, qui était le directeur de la mission du programme e-résidence, qui expliquait globalement qu'ils avaient cette idée, qu'ils avaient ce constat. D'une part, l'Estonie a une infrastructure numérique qui fait beaucoup d'envieux, qui est quasiment unique au monde. D'autre part, ils ont cette communauté de e-résidents qui est unique au monde. Et il y a cette promesse qui est faite par la technologie blockchain d'avoir des intérêts pour notamment tout ce qui va être gestion de communauté, possibilité d'investir dans des projets, etc. Et Caspar Corius et le reste de son équipe se sont dit pourquoi pas associer les trois et pourquoi pas essayer d'imaginer un token ou une crypto-monnaie qui pourrait bénéficier à la fois aux résidents mais aussi à l'Estonie en retour. À partir de là, il y a eu beaucoup d'emballements médiatiques.
Oui, les médias sont vraiment responsables de l'engouement, je pense.
Il y a eu beaucoup de médias qui ont repris en boucle que l'Estonie annonçait officiellement le lancement d'une crypto-monnaie étatique. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie étatique? Personne ne l'avait défini. En tout cas, ce n'était pas défini comme tel dans l'article original de Caspar Corius. Ce n'était pas un projet officiel de l'État estonien. C'était vraiment cette équipe qui mettait sur la table une idée qu'elle avait eue et avec laquelle elle voulait engager des experts pour voir ensemble ce qui pouvait être imaginé. Donc c'est vraiment une méthodologie de start-up, en fait, de lancer une idée sur la table et d'essayer de construire avec les personnes les mieux placées un nouveau service. Donc c'était pas du tout une politique publique engagée de l'État estonien.
Et pourtant ça a été présenté comme ça dans beaucoup d'articles.
C'est présenté comme ça et depuis je me méfie beaucoup sur ce qui est dit. Depuis je me méfie beaucoup de ce qui est dit sur tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie dans les médias qui sont pas spécialisés.
Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on expérimente vraiment là-dessus ou le projet était abandonné parce que la BCE a dit oula non ça n'arrivera jamais une crypto-monnaie étatique au sein de la zone euro? Qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'il y a eu deux limites à ce projet. La première, c'est que c'est un reproche qu'on fait souvent en fait à la blockchain en tant qu'innovation, c'est ça paraît être une réponse géniale, mais quel est le problème? C'est une solution, mais où est le problème? Et c'était un peu ce qui transparaissait dans l'annonce originale, c'est on a envie d'utiliser une technologie, mais sans savoir exactement quel était le problème qu'on essayait de résoudre. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est qu'effectivement, l'Estonie étant membre de la zone euro et l'Estonie étant globalement un État qui respecte toujours très strictement les règles internationales, que ce soit de l'Union européenne, de l'OTAN, etc., on ne voyait pas comment il pouvait y avoir un projet de crypto-monnaie qui pouvait entrer en concurrence avec l'euro. À partir du moment où ces deux limites sont posées, il fallait temporiser et prendre le temps de voir vraiment à quel point ce projet d'Escoin avait du sens ou pas. Ce qui a été perçu par une partie de la presse comme un recul à partir du moment où notamment Mario Draghi avait annoncé que ce n'était pas possible d'avoir une crypto-monnaie dans la zone euro, concurrente de l'euro. Sauf que d'un point de vue juridique, est-ce qu'un token basé sur une blockchain, est-ce que c'est forcément une crypto-monnaie? Est-ce que c'est forcément un concurrent à l'euro? La question n'a pas été tranchée. La question est légitime, elle est intéressante, mais elle n'a pas été tranchée.
D'accord. Donc là, on peut dire que le projet est au point mort.
Le projet n'est pas abandonné, mais concrètement, ce n'est pas du tout une priorité du programme e-résidence. Ils ont sorti il y a quelques jours un white paper sur la prochaine étape sur e-résidence 2.0. Et si vous faites CTRL-F et que vous cherchez Estcoin ou blockchain, il y a deux ou trois mentions.
D'accord. Moi, je pense aussi que l'Estonie peut se permettre d'aller beaucoup plus vite parce qu'elle est très dynamique. Voilà, son tissu de start-up, l'innovation, enfin, tout se passe très bien là-bas. Mais pour faire bouger quelque chose comme la zone euro ou la BCE derrière, ça va prendre beaucoup de temps, quoi.
Oui, il ne faut pas fantasmer non plus l'agilité et la modernité de l'État estonien qui reste un État européen comme un autre avec les mêmes contraintes. Autant dire que tout le monde au sein du ministère des Finances estonien n'était pas du même avis sur l'intérêt d'un Escoin, clairement. Donc c'est intéressant de voir comment il y a cette start-up d'État, et c'est un peu, c'était pensé comme ça, qui est le programme e-résidence. à quel point ils arrivent à être agiles, à proposer des nouvelles idées, à essayer d'engager des experts autour de ces idées. Mais il ne faut pas croire que tout l'État, toute l'administration va avoir la même agilité. Ce n'est pas le cas.
D'accord. Et pour finir, juste, j'aimerais avoir votre impression personnelle sur cette société numérique du futur inventée par l'Estonie. Donc vous qui y avez vécu pendant 2 ans, le résultat des courses, c'est quoi ? Beaucoup de com ? Est-ce que c'est vraiment utile ?
Alors, il y a plusieurs choses. Si on analyse le point de vue démocratique, déjà, il y a une question intéressante, c'est est-ce que la construction d'un État numérique permet de mieux répartir le pouvoir au sein de la société, mieux associer notamment les citoyens à la prise de décision, imaginer des nouveaux rapports entre les gouvernants et les gouvernés. De manière générale, l'exemple estonien prouve que c'est absolument pas automatique et que ça n'arrive pas si c'est pas une priorité au moment de construire la transformation numérique de l'État. Et clairement, ce n'était pas la priorité des Estoniens, qui était pour eux de rapidement construire un État à partir de pas grand-chose après l'indépendance de l'Union soviétique. Et qu'aujourd'hui, si on analyse la situation estonienne, un citoyen estonien n'a pas, je pense, plus de pouvoir politique qu'un citoyen français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication sur leur projet de nation numérique. Mais je pense qu'on ne peut pas leur reprocher, au contraire, c'est un énorme atout, et je pense que ça va être un des enjeux de la puissance des nations à l'ère du numérique, c'est de savoir incarner un storytelling pour attirer de la valeur économique sur leur territoire physique ou sur leur territoire numérique, comme l'Estonie est en train de le construire avec le programme e-résidence. Et concrètement, j'ai pu voir la puissance que peut avoir un branding et un marketing bien pensé quand j'ai rencontré des entrepreneurs, notamment crypto, qui venaient d'autres pays que l'Estonie, jusque du Japon, pour s'installer en Estonie, non pas parce que le cadre légal était différent, il ne l'était pas, non pas parce qu'il y avait des avantages matériels, il n'y en a pas vraiment, mais parce qu'ils se sentaient bienvenus dans un État qui, officiellement, voulait inventer le futur avec agilité, en associant les entrepreneurs, etc.
Merci beaucoup à Geoffroy Berson pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad, qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et nos précédents épisodes sur SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et même Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Et vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. Et n'oubliez pas qu'on vous offre toujours 10% de remise pour vous rendre au Paris Blockchain Week Summit les 16 et 17 avril à Paris. Les détails sont dans la description. À bientôt !